Julien Duy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes affilié au laboratoire d'anthropologie sociale et vous êtes aussi l'auteur de deux livres marquants, Cosmogonie et l'aube des mythes, qui étaient parus à la découverte et dans lesquels vous mettiez au jour les bénéfices d'une approche phylogénétique des mythes, approche sur laquelle évidemment nous reviendrons dans le cadre de ce nouveau livre. C'est une approche profondément interdisciplinaire qui vous permet d'aborder cette fois-ci un sujet qui vous accompagne depuis longtemps, qui sont les dragons, et dont vous vous proposez de faire, comme l'indique le sous-titre, une généalogie mondiale à l'occasion de ce livre qui paraît donc aux éditions Armand Collin. Alors, peut-être pour commencer de façon un peu générale et liminaire, qu'est-ce qui fait, selon vous, la singularité du dragon comme mythe? Alors, sans refaire tout le livre, c'est là, il va falloir être synthétique. Et pourquoi ce mythe-là, particulièrement, vous qui en connaissez des milliers, vous fascine particulièrement?
Alors, le dragon est un motif accompagné de mythes, c'est-à-dire que c'est cette sorte de figure qui centralise les différents récits, et il est accompagné de d'ailes de mots et d'ailes d'histoire. Pour me permettre une métaphore un peu poétique. Alors, pourquoi le dragon? Parce que le dragon et la mythologie avec laquelle il est lié, c'est-à-dire le serpent, trouvent un enracinement extrêmement profond dans notre culture. Je ne parle pas en termes de centaines d'années, de milliers d'années, mais plutôt de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'années. C'est un sujet qui a intéressé les chercheurs depuis bien longtemps, et beaucoup, beaucoup de choses ont été écrites. Par ailleurs, à titre personnel, quand j'ai commencé à développer l'approche phylogénétique des mythes, j'ai commencé en travaillant sur un certain nombre de dossiers. Alors, comme je suis un peu maniaque, j'avoue que je prends un dossier, puis j'ai tendance à rester dessus, c'est-à-dire que je l'ai fait avec un corpus, très bien. Je prends un autre corpus pour voir s'il y a les mêmes résultats, très bien. Je reprends un autre corpus autour d'un même thème. C'est des questions de scientificité, hein. C'est vrai que ça donne parfois une impression de redondance. Et dans ces premiers dossiers, il y avait le dragon. Et j'ai commencé à étudier, j'ai fait un article en observant la répartition à travers le monde de certains motifs et voir comment on pouvait les traiter de manière statistique. Sauf qu'ensuite, ce dossier ne m'a jamais vraiment lâché, hein, m'a suivi un peu comme une ombre, et je l'ai retraité, parce que le premier dossier, le premier corpus, je l'avais créé avec mes mains, ça, j'avais déjà lu beaucoup, hein. c'était assez important, j'avais travaillé par aire culturelle, mais j'avais créé le corpus, donc il pouvait y avoir des problèmes. Alors j'ai essayé un corpus que je n'avais pas créé, emprunté à quelqu'un d'autre. Mais une fois que c'était fait, il pouvait toujours y avoir des biais. Alors j'ai essayé, mais cette fois-ci, non plus en travaillant au niveau des aires culturelles et des motifs, on n'aura pas des mythèmes, on en reparlera, les motifs. J'ai travaillé au niveau de récits liés au dragon, voir si ça correspondait à ce que j'avais reconstruit. Puis j'ai fait un autre récit, puis encore un autre corpus, et ainsi de suite. Bon, la chose rassurante, c'est que tous les résultats donnaient à peu près la même chose. Ça veut dire que j'avais beau tester, j'avais beau essayer, j'avais beau tenter de toucher aux limites, finalement, de l'expérimentation, les résultats que mes analyses renvoyaient étaient cohérents entre eux. Alors, au bout d'un moment, il était peut-être temps de faire une synthèse, non pas seulement de mes travaux, mais également de tout ce que j'avais pu lire, parce que le dragon a fasciné à travers le monde, et on trouve des travaux remarquables dessus, non seulement en français, en anglais, en allemand ou en espagnol, mais aussi en russe, par exemple, ou en chinois, ce qui sont des langues qui ne sont pas toujours appréhendées et dans lesquelles les travaux restent parfois bloqués. C'est-à-dire qu'on a l'impression de découvrir quelque chose en Europe qui est connu, su, développé depuis longtemps dans d'autres contrées.
Avec, et vous le dites en ouverture de votre livre, avec cet intitulé évidemment un peu provocateur et en même temps paradoxal, qui est « Les dragons existent-ils ?» au sens où il y a quand même, parmi les singularités qui forment ce motif, comme vous le dites, motif source de mythe, le fait qu'il n'y a pas de définition stable et qu'il faut, justement par les lectures et par l'accumulation des savoirs, essayer de parvenir à une sorte de base minimum qui nous permet de nous entendre sur ce que serait, en termes de définition, un dragon. Et sachant que dans la littérature que vous avez évoquée, extrêmement nombreuse sur le sujet, tout un tas d'hypothèses ont été émises, que ce soit, est-ce que ça peut être un cochon ou quelque chose de cet ordre-là, est-ce que ça peut être lié à une autre forme animale, et ça, c'est intéressant parce que ça montre aussi toute la question de savoir qu'on a une image qui est venue jusqu'à nous et qu'on essaie de remonter, est-ce qu'on l'a construit d'après l'image qu'on en a aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire, il faut essayer de prendre un autre axe de lecture?
C'est ça, en fait, tout est dans le problème de la définition. C'est-à-dire, est-ce que la définition est quelque chose de complètement arbitraire, qu'on impose de l'extérieur? On va dire, ceci est un dragon, et puis du coup, après, on va faire ce qu'on appelle en anglais du cherry picking, hein, de la cueillette des cerises, et puis on va prendre pile ce qui correspond à notre définition, mais le risque, forcément, c'est un raisonnement circulaire, ou s'il existe une base qui soit réelle pour étudier le dragon. Alors la première chose à faire, c'est voir de quoi on parle. Donc pour ça, bah, c'est un travail qui est assez long, il faut regarder le dragon, pas seulement le dragon européen, pas seulement les dragons chinois, mais ce qui est interprété comme dragon avec des récits, hein, des récits qui tissent des liens entre les différents motifs. Et là, on se rend compte que c'est quand même compliqué. Parfois, le dragon, bah, il va avoir des ailes, hein, de chauve-souris, pensez à notre dragon européen. Parfois, il va avoir des plumes. Hein. Parfois, il va avoir une tête de sanglier. Parmi les premiers dragons à avoir été identifiés comme dragons, il y en a qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des sangliers. Parfois, il va avoir des nageoires. Des pattes, pas de pattes. Hein. Il y a plein de possibilités. Sauf que quand on regarde, parmi toutes ces particularisations du dragon, il y a un point commun. C'est-à-dire que si on retire les aimants les uns après les autres, il y a quelque chose qui reste et c'est une part ophidienne. Alors, il n'y a pas que la part ophidienne, parce qu'il suffit de dire, bah oui, mais le griffon, il a aussi une part de serpent, par exemple. Donc, ça ne suffit pas. Donc, il faut déjà qu'il y ait une part ophidienne. D'ailleurs, Vladimir Propp le disait, un très grand folkloriste le disait il y a longtemps. Mais, en plus, il faut qu'il y ait des récits, des mythes, parce que les motifs du dragon se rattachent les uns les autres par des récits partagés. Lorsqu'il y a un combat contre un dragon, par exemple, alors c'est pas universel, il n'y a rien d'universel, mais on en reparlera plus tard. Lorsqu'il y a un combat contre le dragon, eh ben, il y a certaines formes. Souvent, il y a des sacrifices pour obtenir de l'eau, etc. Et on se rend compte que, quelle que soit la forme du dragon, les récits qui les accompagnent restent les mêmes. C'est-à-dire que ce qui relie les dragons entre eux, c'est pas seulement la forme, mais c'est aussi la ribambelle d'histoires qui sont traînées, de mythes qui sont traînés avec eux. Alors, comme vous le disiez, effectivement, le dragon, on a essayé de trouver beaucoup de sources, hein, parce que l'être humain, toujours, essaie de trouver un pourquoi aux choses. Donc, on a dit, par exemple, que c'était des crocodiles. Hein, voilà. Le dragon, oui, c'est vrai que ça ressemble de loin à un crocodile. Bon, c'est du moins le dragon européen, hein, c'est oublié toutes les autres formes de dragons. Ça marche pas vraiment, ça marche dans certains secteurs et pas partout. On a dit, ah ben non, je sais, c'est des serpents. Donc forcément, et puis regardez, ces serpents, ils sont gros, il y a des boas, etc. Forcément, c'est des serpents, en plus ça miroite, il y en a qui sont très beaux, c'est des serpents. Ouais, mais des dragons, il y en a, on trouve des figures de dragons, hein, associées avec des mythes liés aux dragons, également plus au nord. Et puis comment expliquer pour qu'il y ait les mêmes récits associés dans des endroits très larges, hein, à ce serpent? Il n'y a aucune raison. Alors parmi les autres hypothèses, hein, il y a des... Ah oui, l'origine, c'est un sanglier, par exemple, ou alors une grande hypothèse que l'on entend souvent, qui paraît pourtant dite comme ça, qui semble une évidence, c'est parce que les premiers humains ont rencontré des ossements de dinosaures. Alors on n'est plus au temps de Jung, hein, Jung, le psychanalyste, qui disait que les humains avaient connu les dinosaures et que c'est pour ça qu'ils gardaient au fond d'eux comme un archétype l'image du dragon. Mais il y a cette idée... qui, sur le papier, hein, a l'air assez correct quand on ne connaît pas vraiment les choses. Oui, je sais pourquoi il y a des dragons, c'est parce qu'il y a eu des dinosaures. Ils ont trouvé des ossements de dinosaures, et puis tout de suite, ils ont pensé aux dragons. Problème, c'est qu'il nous a fallu du temps pour savoir à quoi ressemblait un dinosaure. Quand on regarde les reconstitutions qui avaient lieu au 19e et les reconstitutions actuelles, il y a des changements qui sont radicaux. En plus... Il ne faut pas oublier que pour comprendre à quoi ressemble un dinosaure, il faut une accumulation très importante de connaissances. Comment les ossements se mettent ensemble, on ne trouve pas un dinosaure complètement fossilisé, hein, on trouve des ossements dispersés un peu partout. Donc, il y a très peu de chances que, brusquement, même des génies, hein, de l'époque aient trouvé les ossements, et un peu à la manière d'un mécano géant, aient reconstruit un dinosaure, donc déjà ce serait quand même assez révolutionnaire, puis après il dit « ça ». C'est un dragon. Donc ça ne marche pas. En fait, les mythes dépassent toujours, les mythes liés associés au dragon dépassent toujours les territoires où on veut confiner l'origine du dragon. Et les explications matérialistes sont problématiques.
Justement, pour continuer sur ce moment un peu définitionnel, le mot même de dragon cette idée qu'on subsume sous un même mot tout un tas de choses qui peuvent paraître différentes, et que dans le livre, vous allez chercher un autre mot qui est, alors que je prononce dracon parce que je ne sais pas comment le prononcer, peut-être vous me le direz, avec l'idée qu'il y a quelque chose qui permet d'être, on va dire, un petit peu dans un soubassement théorique. Pourquoi ce mot-là? Qu'est-ce qui autorise à rassembler tout sous le même mot, et d'où vient ce mot lui-même?
Alors, dragon, ça vient de dracon. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, quand on parle de dragon, on a dans le théâtre de l'imaginaire, on a des figures qui sont propres à notre culture, tout simplement. On pense aux ailes, on pense aux pattes, on pense à l'animal cracheur de feu. Mais si on remonte dans le temps, on se rend compte que le dragon, il y avait une confusion entre le dragon tel qu'on le voit et le serpent. Et le mot dracon, par exemple, signifie à la fois cette créature monstrueuse que l'on connaît et un serpent monstrueux. Et quand on regarde sur le domaine indo-européen, eh ben cette confusion originelle, on la retrouve un peu partout. Le dragon est un serpent, le serpent est un dragon. Or, et on en reparlera après, quand on travaille sur la mythologie du dragon, on se rend compte que celle-ci s'enracine profondément dans celle du serpent. Finalement, le dragon, c'est un serpent qui a réussi, un serpent mythologique qui a réussi. Ensuite, si on continue l'étymologie, dracon est lié à un verbe qui signifie voir et qui renvoyait à la pupille fixe du serpent. Mais dans l'ouvrage, puisqu'il fallait trouver un terme, je n'allais pas jongler, sachant qu'on est dans un même champ conceptuel, je ne pouvais pas dire en permanence serpent puis dragon, au risque de perdre les lecteurs, j'ai adopté le terme dracon, puisque le sens de ce mot, c'est quelque chose qui désigne à la fois la créature fabuleuse et le serpent gigantesque.
Alors, avant d'en arriver justement aux détails à la fois des motifs et des mythes et de leur circulation dans l'espace et dans le temps, la question que vous posez à plusieurs reprises dans le livre, c'est ce qu'est un mythe. C'est-à-dire que pour comprendre, pour essayer d'être capable de se dire comment ça circule, il faut savoir ce que c'est. Est-ce que c'est, ça pourrait être le, est-ce que la réponse à ce que c'est un mythe, c'est à quoi ça sert? Est-ce que l'efficience est la bonne pierre de touche du mythe, et ce qui nous permettra d'aboutir après sur l'autre question qui est la méthodologie que vous déployez pour essayer de comprendre justement comment est-ce qu'on peut lire la circulation temporelle et spatiale des mythes. Mais pour vous, finalement, on a employé tous les deux à plusieurs reprises le mot de mythe, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Est-ce que c'est un élément scientifique stable sur lequel toute la communauté est d'accord, et de quoi parle-t-on?
Alors, déjà, un peu d'étymologie. Mythe, ça vient de mythos. Mythos, c'est le récit, c'est l'histoire. C'est quelque chose qui est relativement neutre. Aujourd'hui, quand on dit de quelqu'un que c'est un mytho, c'est quelqu'un qui affabule. Affabule, c'est-à-dire qui crée des histoires et où les histoires prennent le pas sur la vérité. Voilà, nous sommes tous, en fait, des mythos, puisque nous sommes tous des êtres d'histoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la définition du mythe, qui est effectivement cruciale. Il y a eu beaucoup de définitions différentes qui ont été données au mythe. Mais globalement, les auteurs s'accordent sur quelques éléments. La première chose, c'est que le mythe est une histoire. Ça n'a l'air de rien, mais c'est important. La deuxième chose, c'est que c'est une histoire qui explique les origines du monde ou pourquoi le monde est tel qu'il est. C'est-à-dire qu'un mythe va raconter pourquoi il y a eu un temps où on était amortel ou immortel, hein, c'est-à-dire qu'on vivait la plus belle de nos vies sans craindre la mort, puis il va y avoir une bêtise, un problème. Alors, c'est l'homme, ou parfois c'est pas l'homme, il y a eu tromperie sur la marchandise, etc. Mais la mort rentre dans le monde, et puis voilà, maintenant elle est là, on n'arrive plus à s'en défaire. Donc ça, c'est un mythe, ça raconte comment les choses sont arrivées, les choses qui sont fondamentales. Bon, jusqu'à là, on pourrait dire, c'est une histoire, un récit qui raconte comment le monde est devenu tel qu'il est. Mais c'est aussi quelque chose qui a une très très forte influence sur nous. C'est-à-dire que le mythe, souvent, explique notre conception du monde, explique aussi comment on doit se comporter. Ça donne des règles. Et à partir de ces règles, toute la société va adopter ces règles, ce qui fait qu'on fait société, fondamentalement, sur des histoires. Voilà, donc ça, c'est le mythe. Ensuite, effectivement, il y aurait de quoi parler pendant une heure, hein, sur les différentes définitions du mythe. Il y a eu beaucoup d'approches différentes, des approches symboliques, des approches psychanalytiques, mais ce noyau commun, globalement, tout le monde est d'accord. Ensuite, la méthode, c'est ça?
Alors, juste avant la méthode, ce qui est intéressant, c'est que là, vous donnez la fonction du mythe. Et ce sur quoi vous insistez aussi beaucoup, qui est très important et qui fait le pont avec la méthode, c'est le fonctionnement du mythe. Au sens où, et là, vous, à plusieurs reprises, vous citez Lévi-Strauss, le mythe, c'est quand même, c'est une histoire, mais qui a comme singularité d'être les plus anciennes qui se transmettent. Elle traverse les peuples quand ils disparaissent, elle traverse les langues quand elles disparaissent, donc ça c'est très important. On peut aussi d'ailleurs juger que jusqu'à un certain point, le dragon c'est la métaphore absolue du mythe, puisque c'est comment changer tout en restant le même, hein, avec le serpent, pardon, c'est comment changer tout en restant le même grâce à la mue. Mais et cette histoire, cette idée que c'est à la fois un jeu permanent de transmission, de transformation et de stabilité, donc le fonctionnement même du mythe est un fonctionnement singulier. C'est pas le même que celui de la littérature, par exemple.
Non. Quoique, il y a des liens qui sont entretenus entre la littérature et la mythologie. Beaucoup, beaucoup de liens. Non, effectivement, les mythes perdurent dans le temps. Alors, ça ne veut pas dire que tous les mythes sont préhistoriques. Il y a certains mythes auxquels on croit qui sont relativement récents. Mais il y en a d'autres qui s'enracinent dans les profondeurs du temps. Alors, comment est-ce qu'on le sait? Parce que finalement, on peut dire, oui, il est gentil, Julien Duhil, il est en train de nous dire quelque chose, il nous demande de croire sur parole. En fait, on peut déjà observer la répartition des récits. Il y a des chercheurs qui par exemple, il y a le chercheur russe, l'historien russe Yuri Bereskin, qui a travaillé dessus. En France, on a un autre chercheur qui est Jean-Louis Lequelec, qui a travaillé également dessus. Et ils ont réalisé des cartes de mythes. Alors, ils ont regardé, par exemple, tel ou tel mythe, comment ça se répartissait. Les mythes de plongeon cosmogonique. Alors, plongeon cosmogonique, ça raconte qu'il y a un grand océan, et puis hop, il y a un animal qui plonge à l'origine, et puis hop, il y a un animal qui plonge, et qui va ramener les bases d'un continent. Alors, voilà, et donc il plonge. Alors, parfois, il y a des essais, il y en a trois qui plongent, c'est le dernier qui arrive, l'animal peut changer, mais l'histoire de base, c'est ça. Et en fait, ces chercheurs, Yuri Bereskin, puis Jean-Louis Lequelec, se sont rendus compte que c'était pas universel. C'est-à-dire qu'on va pas les retrouver en Australie, pas en Afrique, pas en Asie du Sud. Par contre, on retrouve ça en Eurasie. Et en Amérique du Nord, avec des points de détail qui sont très très ressemblants. Problème, comment expliquer le passage du continent eurasiatique au continent à l'Amérique du Nord? On peut écarter l'idée des archétypes, c'est des idées tellement simples qu'elles seraient apparues partout, si on devrait trouver le même récit en Afrique, en Australie, en Asie du Sud, du Sud-Est, etc., ou en Amérique du Sud. Ça, on peut l'écarter. On peut écarter des coïncidences, même chose, si on devrait retrouver ça à peu près partout. Donc l'hypothèse la plus probable, c'est un passage sur les dernières vagues de peuplement des Amériques depuis l'Eurasie, qui, ces peuplements, auraient été accompagnés de leurs récits. Alors là, on est sur du paléolithique relativement récent, mais on peut aller plus loin dans le temps. Par exemple, toujours pareil, Yuri Bereskin, Jean-Louis Lequelec, mais il y a eu d'autres exemples, ont observé que certains récits, comme la caverne originelle, c'est-à-dire l'idée que les animaux vont sortir de sous le sol et les humains sortir sous le sol, se retrouvent en Afrique, en Asie du Sud, dans le Sahul, en Australie, en Amérique du Sud. Si on prend un exemple qui est étudié dans le livre, il y a aussi le serpent arc-en-ciel qui suit une diffusion similaire. Et lorsqu'on étudie, on voit les points communs, et on se rend compte qu'il y a plein de points communs qui relient l'Afrique à l'Asie du Sud au Sahul, le Sahul à l'Australie, et ainsi de suite. Comment l'expliquer? Rien en Eurasie du Nord, comment l'expliquer? Pareil, les archétypes, ça ne tient pas. Les coïncidences, ça ne tient pas. C'est pas possible si on devrait y avoir partout les mêmes choses. Mais quand on connaît l'histoire du peuplement, les premiers Homo sapiens, quand ils ont quitté l'Afrique, n'ont pas pu aller dans le nord. Il faisait trop froid, période glaciaire. Ils ont donc longé les côtes du Pacifique. Ils sont descendus le long du Sahul, l'actuelle Nouvelle-Guinée, jusqu'à atteindre l'Australie. Or, ça correspond à la diffusion actuelle du mythe. Puis, profitant du fait que ça se réchauffait un petit peu, ils sont passés par le détroit de Bering. Ils n'ont pas pu s'installer en Amérique du Nord. C'est vraiment la plus grande partie de l'Amérique du Nord était couverte par un immense glacier. Mais ils sont allés en Amérique du Sud. Et on sait ainsi, par les dates de peuplement, par la diffusion des récits, par exemple l'Australie a été peuplée à partir de 65 000 ans, avant de rester très très longtemps isolée du reste du monde. On sait que certains récits sont extrêmement anciens. Alors après, avoir une carte, c'est bien. Mais il faut démontrer, mettre des flèches, parce que c'est pas parce qu'on a une aire de diffusion, par exemple, qui couvre l'Asie du Sud, l'Afrique et l'Australie, on peut très bien imaginer que le mythe est apparu en Nouvelle-Guinée puis est revenu en Afrique. Et c'est là qu'interviennent les statistiques. Donc c'est là que l'approche que j'ai développée entre en jeu. Donc, cette approche consiste à mettre des flèches. Alors, vous me dites si j'avance trop vite.
Non, c'est exactement, c'est tout à fait là où il faut en venir.
Donc, ça consiste à mettre des flèches sur la carte. C'est-à-dire qu'on a la carte d'aire de, on a les aires de répartition, mais il s'agit d'établir en termes scientifiques, vérifiables, contrôlables, d'où viennent les récits, quel chemin ils ont suivi, et puis voir quelle forme, quelle tête ils avaient à tel ou tel moment de la diffusion. Alors, si on revient au dragon, comment faire ? Il y a plusieurs niveaux. Plusieurs systèmes pour faire ça. La première chose, quelle forme adopter ? Donc l'hypothèse, hein, si jamais un récit est répété et transmis à des personnes, ben, il y aura des versions filles. Un peu comme, vous savez, les arbres généalogiques. Hein, on a les parents, on a le père, puis après il y a les enfants, puis les petits-enfants, etc. Donc imaginez, tout le monde a déjà vu ça. Ou l'arbre du vivant, où nous sommes plus proches, hein, à la fois physiquement puis intérieurement, des chimpanzés que des sardines. Et nous sommes quand même plus proches des sardines que des amibes, par exemple. Donc comment est-ce qu'on fait ? On calcule l'écart qui nous sépare. Pourquoi on sait qu'on est plus proche des chimpanzés ? Parce qu'on est quand même des mammifères. Il y a la bipédie, même si le chimpanzé ne se met pas toujours debout. Hein. Puis même d'un point de vue génétique, hein, on a une vraie proximité quand on observe les gènes. Et tout ça, on a plus de proximité entre le chimpanzé et l'humain qu'entre l'humain et le... J'avais dit, je ne sais plus, poisson, je crois.
Oui, de la sardine.
Et la sardine, hein, que la sardine, sauf peut-être à l'heure de pointe à Paris. Donc, quoi qu'il en soit, on peut reconstruire comme ça, par proximité successive, un arbre d'évolution. Donc, pour les mythes, c'est ce que j'ai fait. Sauf que ça pose un problème. Parce que pour les êtres vivants, on a l'ADN, on a les protéines, on a le phénotype, les caractéristiques, hein, les tailles moyennes, etc. Pour les mythes, a priori, on n'a rien de tout ça. C'est pas si vrai. En fait, la première chose, on peut comparer différentes versions d'un même mythe. Alors, j'ai travaillé, par exemple, sur le mythe de l'arc-en-ciel qui va boire l'eau. Donc, ça veut dire qu'on a le grand arc et puis il va boire l'eau au bout. Et j'ai pris des exemples des versions de ce mythe, différentes façons de raconter à travers le monde. Chacun des mythes a été divisé en phrases très courtes, très très courtes, du type « il y a un arc-en-ciel, il y a deux arc-en-ciel ». Dans certaines cultures, c'est deux arc-en-ciel qui sont entremêlés. Il est mâle, il est femelle. Il boit de l'eau terrestre, il boit de l'eau céleste. Donc, une information. Et pour chaque version, pour chaque type, eh bien, j'ai fait un code. Quand le trait était présent, je mettais 1. Quand le trait était absent, je mettais 0. Donc, on obtenait une chaîne binaire, 1, 0, 0, 1. Le trait est là, 1. Le trait n'est pas là, 0. Le trait n'est pas là, 0. Le trait est là, 1. Et plein de versions différentes, alignées, puis avec des 0, des 1, des 1, des 0, etc. Et quand on ne sait pas, en plus, on peut même mettre un point d'interrogation. Ça veut dire moitié-moitié, on met 50%, 50% de chance. Alors c'est bien, mais avec une chaîne binaire, qu'est-ce qu'on fait ? Bah déjà, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, hein, sur les grands arbres, plus il y a de points communs, plus l'ancêtre commun est récent. Bah pour les mythes, c'est la même chose. Deux mythes qui ont un ancêtre commun récent vont beaucoup plus se ressembler que de mythes qui ont un ancêtre plus lointain. Et avec nos 0 et nos 1, il y a la possibilité de comparer les mythes. Donc c'est ce que je fais. On utilise des algorithmes, parce que pour vous donner une petite idée, juste avec 5 versions, on peut avoir 105 arbres différents. Avec les plus gros corpus que j'ai, sur lesquels j'ai pu travailler, il y a plus d'arbres possibles qu'il n'y a de particules dans l'univers observable. Alors moi, je veux bien consacrer ma vie, mais même ma vie entière...
Ça ne suffirait pas. Donc,
c'est ça. Donc on va utiliser des algorithmes. Et ces algorithmes reposent sur différentes méthodes statistiques. Il y en a certaines qui tentent, qu'on appelle de parcimonie, c'est-à-dire qu'on fait le chemin le plus court d'un point A à un point B. Il y en a d'autres, c'est des calculs bayésiens. On va générer des dizaines de milliers d'arbres par approximation pour essayer de trouver quelque chose de proche. Il y a le consensus. On essaie de trouver l'arbre qui correspond, qui fait la moyenne entre les différents arbres tout aussi probables, etc. Et une fois qu'on a l'arbre, on a les versions, on n'a payé aucune indication. Et cet arbre retrace l'histoire du mythe. Alors bien sûr, il n'y a pas que le mythe. On peut aussi travailler sur d'autres niveaux de lecture. On peut travailler avec les traditions, par exemple. Traditions linguistiques. Donc telle tradition linguistique, on connaît tel épisode, tel épisode, tel épisode, tel épisode. Ce qu'on appelle des motifs. On peut travailler par aire culturelle. Aire culturelle, c'est plein de peuples, mais qui partagent beaucoup de choses en commun. Donc il y a l'aire culturelle, par exemple, en Afrique, il y a l'aire culturelle bantou, l'aire culturelle Khoisan, en Afrique australe, et il y a plein de points communs, ils partagent plein de mythes. Et pareil, on va regarder si dans telle aire culturelle, il y a tel épisode, etc. Et avec, en utilisant ces différents niveaux, donc on peut découper les mythes, les mythologies en petites unités, et ben on construit des arbres. Alors c'est bien beau construire des arbres, hein. On demande un algorithme de créer des arbres à partir des chaînes binaires, on a des arbres à partir des chaînes binaires. Là, je ne sais pas si la personne qui écoute est un peu interloquée en disant là aussi c'est un peu du bluff, c'est du baratinage, avec des statistiques on peut tout faire. Il peut, hein, devant son écran, il peut être offusqué, il a le droit, hein, il peut même le revendiquer. En fait, il faut être très prudent. D'abord, il faut vérifier que l'arbre, la structure de l'arbre, explique bien les données. Là aussi, il y a des moyens de voir si l'arbre correspond bien, les données, hein, la variabilité des données correspond bien à la structure d'un arbre. C'est jamais 100%, même chez les êtres vivants. Généralement, ça tourne autour de ce qu'on appelle un indice de rétention 0,6. Bon, ça tombe bien, c'est pour les êtres vivants, et ça tombe bien, c'est ce qu'on a aussi pour les mythes comme moyenne. Ensuite, il faut regarder s'il n'y a pas des emprunts entre les branches, finalement, un mythe. Pourquoi est-ce qu'on le garderait pour nous? On peut le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc là aussi, on fait de beaux réseaux. Hein. Il y en a dans l'ouvrage, ça fait des losanges, etc. Et ça permet de voir où les choses, comment les choses se passent. Et puis, une dernière chose. Tout repose sur un corpus. Il faut ne jamais être satisfait du corpus. Il ne faut pas tester un corpus, deux corpus, mais de très, très nombreux corpus. Et puis, voir si les choses se rejoignent. Étudier les versions d'un mythe. Étudier les traditions liées au dragon. Étudier les aires culturelles liées au dragon. Il faut voir si tout ça, à tous les niveaux, se répondent les uns les autres. Et une fois qu'on a abouti à ça, alors, on peut dire qu'on a une hypothèse relativement solide. Mais là encore, ça ne suffit pas. Parce que tous les résultats qu'on obtient, il faut les tester. Soit en étudiant les aires de répartition. Alors oui, du coup, parce qu'une fois qu'on a un arbre, excusez-moi, je vais trop vite, une fois qu'on a l'arbre, qu'on sait qu'il est solide, qu'on peut, on a une idée de la structure, sachant qu'on connaît les points d'arrivée, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est absent, il est possible de remonter dans le temps, de partir d'une branche et descendre nœud par nœud, génération après génération, jusqu'au premier nœud. Sachant que l'enracinement se fait aussi par des méthodes statistiques pour éviter de tricher. Et on obtient des arbres dont la structure ressemble aux premières migrations de l'humanité, sans qu'on ait rien demandé, qui s'enracinent automatiquement là où ils devraient s'enraciner, sans qu'on ait rien demandé. Et à partir de ces arbres, on a la possibilité de reconstruire, en termes de probabilité, les premiers motifs ou les premiers récits associés aux dragons. En fait, ces arbres, on avait les cartes qui montraient la répartition des récits, qui permettaient d'estimer leur âge. Mais ces arbres, cette approche, permet de reconstruire le contenu des récits, d'observer leur évolution à travers le temps, de savoir où et quand ils sont apparus, bref, de retracer une généalogie complète, pour le coup, du dragon.
Qui, du coup, dans le livre, vous fait aboutir à ce premier moment où la question initiale, puisque il y a cette tension, est-ce que le dragon est un serpent qui a réussi, comme vous l'avez dit, d'un point de vue mythologique, et que donc ça va se jouer sur la question, c'est l'exemple que vous donnez, sur la question de la taille, de l'ensemble de ces récits qui mettent en œuvre le fait qu'on part d'un animal qui est soit trop petit, soit plus ou moins de taille normale, et que dans tout un tas de récits différents, et que selon la méthode que vous avez expliquée, on peut suivre à la fois dans l'espace et dans le temps, cet animal va grandir, comme le mythe, et va devenir autre chose que ce qu'il était à l'origine.
C'est ça. Comment expliquer? Parce que finalement, les premiers Homo sapiens n'étaient pas plus stupides que nous. Ils voyaient bien qu'il n'y avait pas de dragon dans la nature, qu'il n'y avait pas de serpent gigantesque dans la nature. Comment expliquer cette contradiction entre ce qu'ils imaginaient et la réalité? Et là, il y a un récit, on peut le reconstruire à la racine de l'arbre, une origine africaine, antérieure aux premières sorties d'Homo sapiens d'Afrique. Il y a un récit qui a été utilisé et qui raconte comment une petite créature est adoptée, hein, donc un petit serpent ou un petit ver. Et cette créature va être nourrie, puis va devenir de plus en plus grosse, au point de devenir dangereuse. Ça explique l'origine du dragon. Ce type de récit, on va le retrouver un peu partout, en Afrique un peu dissimulé à travers un autre récit, mais on va le retrouver dans le Sahel, on va le retrouver dans l'Asie du Sud, on va le retrouver en Amérique du Sud. Dans l'hémisphère nord, c'est plus un serpent qui est adopté et qui grandit, Mais c'est un ver. Pourquoi? Tout simplement parce que dans l'hémisphère nord, on voit moins de serpents en question de température. Mais c'est la même histoire. C'est juste que les peuples montants, découvrant de nouveaux milieux où il n'y a pas de serpents, ont remplacé le serpent parce qu'il lui ressemblait le plus, le ver. C'est probablement d'ailleurs sous cette forme que ça a franchi le détroit de Bering. Alors par exemple, je peux vous donner un exemple. Hein. Il y a un récit de Tlingit. Alors le récit de Tlingit, c'est des peuples de Colombie-Britannique, donc on est en Amérique du Nord, Amérique du Nord-Ouest, et qui raconte comment une jeune fille va adopter un ver. Drôle d'animal de compagnie, mais pourquoi pas. Elle va le mettre dans une jarre, puis il va commencer à nourrir l'animal. Et l'animal va progressivement grandir, sortir de la jarre, faire des tunnels. Et bien sûr, puisqu'il est dans un village, il va chercher la nourriture dans les jarres des voisins. Et les voisins donc, pensent que tout est bien fermé, et chaque fois qu'ils ouvrent, il y a un trou en dessous, et il n'y a plus de nourriture. Alors forcément, le village devient furieux, la famine guette. Une seule solution, c'est tuer le ver. La jeune fille comprend très bien qu'il y a un problème. Elle refuse de quitter la maison et son ver d'adoption. Et il va falloir déployer beaucoup, beaucoup de patience pour la faire sortir. Et ça signe mal puisque le ver est tué. Mais il sera quand même, il prendra quand même une place extrêmement importante dans la culture Tlingit par la suite, comme une sorte d'ancêtre fondateur. Et ce type de récit, on va le retrouver par exemple chez les Scandinaves avec un ver. On va le retrouver chez les Iroquois, si on passe plutôt en Amérique du Nord-Est, que je ne dise pas de bêtises. Donc c'est là qu'il y a vraiment un récit très similaire qu'on retrouve. Et si on va dans le Sud, ce sera des serpents élevés et qui grandissent, etc. Bon, après, il y a d'autres versions. Par exemple, on dit que le dragon, c'est un serpent qu'on n'a pas réussi à voir pendant un siècle. Ça laisse du temps. Hein. Le serpent grandit tranquillement, il reste caché. Alors, parfois, c'est 100 ans. Hein. Et puis, au bout d'un moment, parce qu'on ne l'a pas vu, il a le droit de se transformer en dragon. Il y a aussi la possibilité de métamorphose multiple. Le serpent, c'est un serpent qui se transforme en autre chose, qui se transforme en autre chose, qui se transforme en autre chose, pour finir par aboutir au dragon. Tout ça pour dire que la contradiction logique, hein, qui nous semble évidente, le dragon n'existe pas parce qu'on ne le voit pas, n'en était probablement pas une dès les premiers Homo sapiens et qu'ils avaient déjà réponse à ce problème.
Et c'est probablement aussi ce qui en fait la... On y viendra à la fin de notre échange, mais ce qui en fait la force et la pérennité assez stupéfiant du dragon, c'est que c'est effectivement, il est lui-même métamorphose continue. Et vous l'expliquez aussi, il est très présent dans toute la logique de lecture des mouvements astraux, des mouvements dans le ciel ou des mouvements de la terre. Vous évoquez la question de la rivière, évidemment, dans lequel le serpent est vu dans la rivière, vu dans les nuages. Et comme vous dites, la création du mythe se fait en sachant parfaitement que ce n'est pas un dragon, mais c'est une lecture du monde par lequel on associe cette image-là à de l'existant naturel.
C'est ça. En fait, il y a une interprétation. On va chercher dans la nature une illustration à notre imaginaire. Alors attention, ce n'est pas universel et c'est très important. Quand on voit dans la Voie lactée un grand serpent, eh ben, il suffit de savoir que chez nous, on ne le voit pas comme ça. C'est toujours très localisé. L'association du serpent et de l'arc-en-ciel n'est pas universelle. D'ailleurs, chez nous, on parle d'arc-en-ciel. Donc un arc, hein, puisque la technologie qui est liée. Donc ce n'est pas des choses qui sont universelles, mais selon les mythes que l'on a, on va reconnaître le serpent dragon un peu partout. Par exemple, parlons de l'arc-en-ciel, si vous voulez bien. Donc l'arc-en-ciel, le serpent associé à l'arc-en-ciel, on va le trouver en Afrique, on va le trouver en Asie du Sud, dans le Sahel, en Australie, en Amérique du Sud. Alors ce qui est intéressant, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même des grosses proximités assez étonnantes. Par exemple, le serpent arc-en-ciel va sortir d'une termitière. Ça peut être reconstruit et il n'y a aucune raison qu'il sorte d'une termitière à la fois en Afrique et en Asie du Sud et dans le Sahel. C'est vraiment aucune raison. Ou alors, le serpent arc-en-ciel va boire de l'eau, etc. Mais voilà, on a un récit qui est très ancien, qui remonte aux premières sorties d'Afrique. Et ce qui est assez logique, finalement, c'est que les premiers Homo sapiens, ou les membres actuels de notre espèce qui adhèrent encore à cette idée et qui voient un arc-en-ciel dans le ciel, voient plus qu'un arc-en-ciel. Et ils vont voir un serpent. Et en voyant l'arc-en-ciel, ils vont se dire « Ah, mais c'est la preuve qu'on avait raison ». De la même manière, hein, le serpent a été considéré primitivement comme une sorte d'être immense qui pouvait contenir ou soutenir le monde. S'il y a des tremblements de terre, C'est simplement que le serpent a bougé de la même manière que ce que je vous ai indiqué avant. On peut en faire l'aréologie, c'est-à-dire étudier la répartition. On se rend compte qu'on le trouve dans l'hémisphère sud. On peut modéliser son évolution, etc. Et voilà, donc on a ce mythe explicatif des tremblements de terre.
Avec ce que vous dites, c'est que finalement, il y a une dimension un peu circulaire, c'est-à-dire que le mythe vient expliquer et à la fin vient confirmer ce qu'on observe. C'est-à-dire que le mythe finit par précéder les faits dans la lecture qu'on en a.
C'est ça. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, c'est parce qu'il y a le serpent. C'est donc que les mythes avaient raison. Mais il ne faut pas regarder ça avec un regard trop critique.
Non, bien sûr.
Il ne faut pas oublier qu'on a chacun nos propres mythes et que le propre d'un mythe, c'est de se dissimuler au fin fond de notre esprit. On ne se rend pas compte qu'on a un mythe sur nous. Et on le voit très bien chez les voisins. Mais alors chez nous, non. Donc il faut toujours se méfier de ça, parce que chacun d'entre nous, nous possédons nos propres mythes. Il peut s'agir d'une mythologie partagée ou d'une mythologie personnelle. Et c'est des récits qui ne reposent sur rien de solide, et pourtant auxquels on adhère comme s'ils étaient vrais.
Alors, justement, ce que vous montrez, c'est à la fois, et c'est très intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure sur la question qu'il n'y a pas d'universel. C'est-à-dire que l'un des nombreux intérêts de votre méthode, c'est donc évidemment, on sort de la logique de l'archétype, de la simultanéité, donc d'une espèce d'universel anthropologique, pour montrer qu'il n'y a pas d'universel, justement parce que c'est le même mythe qui circule. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont il se déforme par sa propre circulation fait que ce n'est pas un universel, c'est un récit qui n'en finit plus d'évoluer au travers de l'espace et du temps. Et dans la deuxième partie, enfin dans la troisième partie du livre, vous montrez, il y a quand même du coup deux aires de développement qui aboutissent à deux logiques de motifs et de mythologies différents, qui vont d'un côté, ce que vous avez expliqué, ce mouvement qui fait l'Afrique, l'Asie et l'Amérique, et de l'autre l'Eurasie, et qui aboutit finalement à deux ensembles de récits qui peuvent avoir des échanges en termes de motifs, mais qui n'ont pas exactement les mêmes cohérences.
Oui, alors quand on utilise les statistiques, alors d'abord, oui, la variabilité est une chose qui est essentielle. Elle se joue à plusieurs niveaux, soit sur un même récit où on étudie plusieurs versions et il n'y a aucune version parfaitement identique à une autre et on voit l'évolution des choses, soit quand on travaille à une échelle plus vaste avec les aires culturelles, où les motifs, c'est-à-dire les épisodes liés aux dragons, changent selon les régions et ne restent pas systématiquement les mêmes. L'esprit humain est extrêmement complexe, on ne répète pas, on évolue lentement, mais on ne répète pas toujours la même chose, et toute la méthode phylogénétique repose sur les proximités, mais aussi les différences entre les cultures. D'ailleurs, les sens, mais on en reparlera après, j'imagine, les sens mis derrière le mot dragon changent, derrière les histoires changent. Et lorsqu'on travaille sur cette variabilité, quand on travaille sur de multiples réseaux, de multiples arbres, effectivement, il y a une double mythologie qui se dessine, dont on peut montrer des connexions. On a cette première mythologie, donc, qui est une mythologie liée au proto-sapiens, qui suit les migrations des premiers humains, que l'on peut reconstruire de l'Afrique à l'Australie jusqu'en Amérique du Sud. Et on a une deuxième mythologie, enfin, on voit une deuxième branche qui se crée, accompagné d'autres récits qu'on peut également modéliser et qui va couvrir l'Eurasie du Nord et l'Amérique du Nord. Alors pourquoi est-ce que on a ces deux strates mythologiques? D'abord, il y a l'histoire du peuplement. La première partie, vous rappelez, Homo sapiens quitte l'Afrique, fait trop froid, il ne peut pas aller dans l'Eurasie du Nord, il est obligé de longer les côtes du Pacifique. Il va peupler le nord de l'Eurasie bien plus tard, plusieurs milliers d'années plus tard, et par petites populations qui vont avancer. Ce qui fait que la mythologie va évoluer. Quand une population est petite, la mémoire collective diminue, et ce qui fait qu'il y a une évolution. La deuxième chose, c'est que le peuplement de l'Eurasie n'a pas eu lieu de partout. C'est pas juste partout dans l'hémisphère sud, tout le monde est monté. Non, il y avait des déserts, il y avait des montagnes qui séparaient les deux ensembles. Ce qui fait que pendant longtemps, il n'y a pas vraiment eu de communication entre ces deux parties. Ce qui fait que une mythologie d'Eurasie du Nord a pu se développer. Alors cette mythologie d'Eurasie du Nord a pris forcément une partie de la mythologie, cette première mythologie qui quittait l'Afrique, mais a rajouté de nouvelles choses. Et nos dragons sont les descendants de cette mythologie propre à l'Eurasie du Nord et à l'Amérique du Nord. Par exemple, le combat contre le dragon. On ne va pas le retrouver partout. En Afrique, il n'y a pas de combat contre le dragon. En Australie, il n'y a pas de combat contre le dragon. Le dragon détenteur d'eau, qu'il faut vaincre, le serpent dragon détenteur d'eau qu'il faut vaincre pour pouvoir accéder à l'eau, ou auquel il faut faire des sacrifices, pareil, on ne le retrouve pas. plus au sud. En fait, on va le retrouver dans le nord de l'Eurasie. Et pourtant, c'est là-dessus que s'enracine notre propre mythologie. Voilà, c'est que simplement que les mythes évoluent, qu'il y a plusieurs strates. J'étais en train de réfléchir pour vous donner un exemple. Par exemple, le combat du héros contre le dragon. Donc, on connaît tous, par exemple, le récit de Saint-Georges. Le récit de Saint-Georges qui va combattre le dragon et qui va libérer la princesse, qui va vaincre le dragon, qui le ramène dans la ville. Et tout le monde se dit « Waouh, Saint-Georges, il est vraiment super fort, il a réussi à vaincre un dragon ». On va tous se convertir au christianisme et après, quand le dragon a rempli son office, il va être sacrifié et tué. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, c'est un récit qui a profondément imprégné notre culture, qu'on retrouve représenté de multiples façons. Et ça appartient à l'ensemble des saints sauroctones. Sauroctones, ça veut dire tueur de dragons. Et on peut faire des associations avec les chevaliers, hein, notamment les chevaliers de la table ronde, représentants de la chrétienté, et là pour vaincre les dragons. Mais si on remonte dans le temps, on se rend compte que partout en Europe de l'Ouest, on a des récits qui racontent le combat d'un dieu de l'orage, qui va affronter un serpent. Et c'est une strate qui est très ancienne. C'est-à-dire quand on regarde les points communs dans les différentes versions indo-européennes, et ben on peut reconstruire un premier modèle. Donc déjà, on remonte dans le temps. Sauf que ce dieu qui affronte, dieu de l'orage, qui va affronter un dragon, on retrouve l'équivalent. Un peu plus à l'est, avec l'histoire de l'oiseau tonnerre qui affronte le serpent. Et ça, on continue, hein, c'est continué à l'est, on arrive au détroit de Bering, et on retrouve des histoires très similaires à cet oiseau tonnerre qui affronte le serpent en Amérique du Nord. Alors, souvent, c'est l'histoire de l'oiseau tonnerre qui a un problème. Son nid attaqué par un serpent, le héros arrive, et comme le héros a aidé l'oiseau tonnerre hein, à vaincre le serpent, eh ben, il sera récompensé. Et ça non plus, ce n'est pas universel. Et on a cette forme de stratigraphie où on peut remonter à chacun, on peut remonter, selon pour les cultures, on peut remonter assez loin jusqu'au moment où on n'a plus de témoignages écrits. On a cette nappe mythologique qui est très très ancienne et qu'on retrouve possiblement, parce que là c'est plus compliqué de faire le pas, dans l'art paléolithique. Par exemple, à Lortay, donc au paléolithique supérieur, en France, on a trouvé une image qui représente un serpent, une vipère. Autour, il y a ce qu'on a interprété comme des têtes d'oiseaux au bec un peu crochu. Et autour de ce serpent entouré d'oiseaux, il y a des éclairs, des chevrons. Alors il peut y avoir d'autres interprétations, bien sûr. On peut imaginer d'autres analyses possibles. Mais a priori, le récit du combat entre l'être tonnerre et le serpent existait déjà. On peut le montrer de différentes façons. Et s'il existait, il y a de fortes chances qu'on ait l'explication de cette image de Lortay.
Avec ce que vous dites là dans l'exemple à la fois du combat et de la question du tonnerre, la double dimension mythologique, c'est-à-dire à la fois dans le combat, qui est finalement une version, le combat tel que Saint-Georges, c'est vraiment une version presque très tardive dans la question de la mythologie, et qui est pour le coup extrêmement normative, assez lisible et très chargée moralement du rapport du bien et du mal, et qui c'est aussi vraisemblablement pour ça qu'elle a une telle pérennité jusque dans la littérature pour adolescents aujourd'hui. Et de l'autre côté, la question du tonnerre, la question de l'éclair, de l'oiseau tonnerre, là on est aussi, on est moins sur la version de la normativité morale que sur le versant, on va dire, descriptif du mythe, qui est aussi la question, et là vous faites toute une lecture assez passionnante à partir de Hugo, de la façon dont les images liées à l'éclair, liées au tonnerre, ça s'articule aussi avec la question du serpent et du dragon, en faisant une remontée généalogique de la littérature vers la mythologie, pour montrer ce que vous venez de faire à l'instant, comment les choses traversent les temps. C'est-à-dire, comme vous dites, ces stratigraphies, elles viennent jouer aussi sur les différents sens du dragon.
Alors, en fait, un mythe, pour survivre, doit être intéressant. Si on ne voit pas d'intérêt à un mythe, on ne le répète pas, tout simplement. Une histoire qu'on vous raconte, si votre voisin vous raconte son petit déjeuner, ça ne va pas vous intéresser, vous n'irez pas raconter l'histoire. Par contre, s'il vous raconte quelque chose d'extraordinaire qui lui est arrivé dans la rue, bah forcément, vous allez transmettre la chose. Et vous allez le transmettre d'autant mieux que ça a une utilité dans votre vie, à vous. Ça explique quelque chose dans votre vie. C'est la même chose pour les mythes. Un mythe qui ne s'adapte pas, qui est dépassé, eh ben on ne le répète pas. Alors, par exemple, l'image de Victor Hugo dont on parlait, Victor Hugo, dans un poème, dit « Le vent souffle comme une vipère ». C'est un magnifique poème qui raconte comment les femmes sont en train d'attendre leurs maris qui sont partis pêcher au loin. Il y a le vent, il y a la tempête, et elles attendent en sachant pertinemment que leur époux ne reviendra peut-être pas. C'est un texte absolument poignant. Et il y a ce vers, « Le vent souffle comme une tempête ».
Comme une vipère.
Comme une vipère, excusez-moi. C'est parce que j'ai fait un saut en plus. Donc, aimant beaucoup Victor Hugo, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché, j'ai regardé si l'image existait ailleurs. Alors oui, il y a quelques occurrences, il y a quelques rapprochements entre le vent et le serpent, mais rien comme ça. Par contre, quand on regarde le folklore local, on se rend compte que la tempête est associée au serpent. Et notamment, les tourbillons sont associés au serpent. On peut s'arrêter là et dire à Victor Hugo, il était au bord de la mer, on lui a raconté ça, il s'est dit « chouette, c'est une belle image, je vais la mettre discrètement dans mon poème et je vais dire que c'est moi ». Non, parce qu'en fait, quand on continue à analyser et quand on remonte dans le temps, on se rend compte que l'association du vent et du serpent en Europe est très ancienne. Et on peut remonter de manière stratigraphique, en fait, jusqu'à l'Antiquité romaine, l'Antiquité grecque, jusqu'à la Mésopotamie. Et là, on n'a plus de texte. Par contre, si on se déplace un peu et on va en Chine, on a aussi des poèmes. Et dans ces poèmes, on a aussi une association du dragon et du vent. Et de la même façon que l'on a fait pour l'Europe, on peut descendre dans le temps. Et on se retrouve face à des... Voilà, il y a un moment où il n'y a plus d'écriture, et c'est là que les statistiques prennent le relais. Mais l'importance de ce type d'analyse, une fois encore, c'est que le lecteur ne doit pas croire sur parole les statistiques. On peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres. Il faut montrer que les mythes peuvent perdurer dans le temps. Il faut le démontrer. Et ce n'est pas le lecteur qui a charge de croire la chose en disant « Ah, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai ». Il faut pouvoir... Mais c'est important, en fait. C'est toute la démarche de la science, c'est prouver les choses. Il faut pouvoir montrer jusqu'au moment où les mots ne nous portent plus la permanence des récits. Alors, comme vous disiez, le combat contre le dragon n'aura pas du tout le même sens au fur et à mesure. Au tout début, c'est des combats qui sont des combats colossaux sur la création du monde, la mise en ordre du monde. Et puis, progressivement, ça va changer de sens. Au Moyen-Âge, le dragon-serpent va prendre le côté démoniaque. C'est-à-dire, vaincre le dragon, c'est vaincre le diable. Et puis après, le combat contre le dragon va devenir un combat aussi contre soi-même. C'est-à-dire, on devient un héros en combattant le dragon. Ça permet d'atteindre un cran supérieur. On prouve son courage, son intelligence, sa ruse en affrontant le dragon. Jusqu'à aujourd'hui, où le combat contre le dragon reste là, soit comme un marqueur, c'est-à-dire un marqueur d'héroïsme, soit de manière plus subtile. C'est-à-dire que c'est plus un combat, ou alors il y a le combat, puis après, le dragon et l'humain font la paix et travaillent ensemble. Ou alors, l'humain voudrait bien combattre le dragon, mais le dragon dit « Ah, moi je suis pacifique ». Donc en fait, c'est repris. Mais le scénario de base, le scénario fondamental, nous suit, c'est documenté depuis plusieurs milliers d'années. C'est-à-dire qu'en croyant raconter de nouvelles choses, finalement, on répète une histoire très ancienne.
En la modifiant toujours, ce qui permet au mythe d'en finir plus de survivre.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une disparition du héros qui va combattre le dragon et libérer la pauvre princesse. Et maintenant, c'est soit le dragon qui est du côté de la princesse et qui va griller le chevalier qui voulait embêter la princesse, qui ne voulait pas, elle, être embêtée, ou alors la femme qui va apprivoiser le dragon et qui va devenir l'héroïne, ou encore, quelquefois, le dragon, il y a une version complète, où le dragon devient le gentil de l'histoire, et les humains, ce sont les ennemis, ceux qui veulent absolument le tuer. Mais le scénario de base, ce qu'on va à la structure, c'est la même chose qui perdure dans le temps. Finalement, les modifications à l'échelle du récit sont superficielles.
Et justement, à la toute fin du livre, pour en arriver au terme de cet échange, vous évoquez plusieurs théories, mais dont on sent que finalement aucune ne vous convainc véritablement, pour essayer de comprendre s'il y aurait... Pour expliquer cette importance très singulière du mythe et du motif du dragon, quelque chose spécifiquement lié au rapport du cerveau sapien, si l'on peut dire, avec les serpents. Donc il y a des expériences de psychologie cognitive dans un sens comme qui vont un peu dans un sens comme dans l'autre, c'est ce que vous dites dans le livre. certains disant mais si, c'est évident, il y a une perception très singulière si vous faites des singes et puis des hommes par rapport aux serpents qui voient quasiment sans les voir et qui les perçoivent sans les perçoivre. Puis d'autres expériences semblent indiquer le contraire. On rejoint ce que vous dites sur la statistique. Tout dépend de notre capacité interprétative. Qu'est-ce que vous vouliez dire, qu'est-ce que vous voulez dire avec cette conclusion? Est-ce qu'il y a pour vous une trace cérébrale du dragon-serpent, du serpent-dragon, ou est-ce que c'est juste une brique parmi d'autres dans la compréhension de cette mythologie?
Alors, de fait, on sait que chez les singes, chez les humains, on a une capacité à détecter beaucoup plus vite les serpents que des animaux plus pacifiques. On repérera plus vite un serpent, beaucoup plus vite un serpent qu'une chèvre, et certains ont peut-être fait l'expérience. Hein. On marche dans la forêt, on voit une broche qui ressemble à un serpent, on fait un bond en arrière avant de réaliser que ce n'était pas un serpent. Donc, on a cette capacité qui existe déjà chez les bébés. Est-ce que c'est propre aux serpents? Non. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a plein de prédateurs qui suscitaient cet effet-là chez nous. Alors, est-ce qu'on peut dire, oui, le serpent, le dragon, c'est juste parce qu'il y a cet effet serpent? Non, c'est beaucoup plus large. Et en plus, c'est plus complexe, parce qu'on a même, nous-mêmes, avons fait évoluer les serpents, et des travaux montrent qu'il y a de fortes chances que les serpents capables de cracher du venin aient développé cette capacité à force d'être prédatés par les humains. Donc, il ne faut pas voir ça que dans un sens. Donc, ce qu'on sait, c'est que le serpent se repère vite, que le serpent crée des phobies et que lorsqu'on a peur de quelque chose, on tend à le voir plus grand. Ça, c'est documenté. Ce n'est pas propre au serpent, c'est-à-dire que cette peur, ce repérage instinctif, on le retrouve pour d'autres prédateurs. Alors pourquoi cette place particulière du dragon? Parce que sur cette base, qui est une base finalement neurologique, biologique, vient se greffer la culture. La culture nous permet de faire un choix. Dans la multitude des choses qui nous entourent, on va sélectionner comme important tel ou tel animal. Et on va se concentrer sur tel ou tel animal. Le serpent, par la mythologie, a pris une grande place. Et ça tombe bien justement parce qu'on le repère vite, qu'on a tendance à le voir plus grand. Et là, il y a probablement une sorte de boucle qui va se créer. C'est-à-dire, ah, je vois un serpent, ah oui, je l'ai repéré vite, et en plus, il est quand même, mon cerveau l'a grandi, il est quand même grand. Serait-ce que les mythes ont raison? Et on va écouter les mythes. Il y a de grands serpents qui existent, ce sont des dragons. J'en ai vu un. Il faisait pas un mètre, il faisait 1,50 m. Et ainsi de suite, et ça s'auto-nourrit. C'est-à-dire que le biologique seul ne suffit pas à expliquer l'existence des dragons. La culture seule ne suffit pas à expliquer la permanence, donc même s'il y a des récits qui perdurent longtemps. C'est probablement une sorte de boucle qui tourne. Le serpent est important pour nous, nous inquiète, nous fascine. Et ça nourrit la mythologie. Et la mythologie, à son tour, va focaliser notre attention sur ces êtres qui partagent notre quotidien. Et à la fin, je propose, mais vraiment à titre vraiment hypothétique, avec 1000 précautions oratoires, cette idée qui est, si les récits liés au serpent étaient une manière de réintégrer cet animal dans notre monde et finalement de le vaincre ou de l'apprivoiser. Puisque une créature réelle qui devient fictive, les mots peuvent prendre pouvoir sur elle.
Écoutez, Julien Duy, merci beaucoup pour ce livre magnifique et passionnant qui à la fois nous en apprend beaucoup et sur les dragons et sur ce que peut être les mythes et la mythologie. Et merci encore.
Ça fait un plaisir. Merci.